Je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Michel Renard. Michel Renard est un professeur d'histoire, mais il est aussi le co-auteur avec Daniel Lefebvre d'un livre qui s'intitule « Faut-il avoir honte de l'identité nationale ?» publié aux éditions Larousse dans la collection « À dire vrai ». Nous revenons avec Michel Renard sur la question de la nation et sur la question de l'identité. Dans cette seconde partie, je vous propose de débuter sur le conflit qui peut exister entre plusieurs historiens sur ce qui touche de près ou de loin à la question nationale. Alors l'un des adversaires des thèses que développent Michel Renard et Daniel Lefebvre, c'est Gérard Noiriel. Gérard Noiriel était présent récemment à Toulouse pour une conférence. Je vous propose d'écouter un extrait de cette conférence et tout de suite après, Michel Renard qui réagit aux positions de Gérard Noiriel.
Avant les années 80, l'expression identité nationale n'était pas utilisée, mais vous aviez d'autres mots pour dire à peu près la même chose. On parlait d'âme nationale, de caractère national, etc. Et ce que l'on peut démontrer, je crois, avec nos outils évidemment d'historiens, c'est que politisation de l'identité nationale, elle s'est faite à la fin du 19e siècle pour essayer de contrer la mobilisation du mouvement ouvrier. C'est vraiment à ce moment-là qu'on voit, au moment où le mouvement ouvrier se développe, au moment où vous avez le syndicalisme, vous avez des grèves extrêmement fortes, extrêmement virulentes, vous avez aussi le mouvement anarchiste qui se développe en France à la fin du XIXe siècle, et vous avez aussi la naissance du premier parti marxiste, le Parti ouvrier français. Et donc, c'est pour répondre à cette offensive de la gauche, on pourrait dire, de la gauche marxisante, du mouvement ouvrier, qu'on voit du côté de la droite la mobilisation d'un discours autour de l'identité nationale. Et ce discours, il est structuré en France pas par un philosophe, pas par un théoricien, mais principalement par un écrivain qui s'appelait Maurice Barrès. Hein. Et donc, Maurice Barrès a écrit un livre, qui en fait c'est un recueil d'articles, qui s'appelle « Scène et doctrine du nationalisme », puisque Barrès, lui, se revendiquait comme nationaliste.
Franchement, Gérard Noiriel, je l'ai connu il y a assez longtemps. Là, je ne le comprends plus. Je ne comprends plus comment il peut dire ça. Il a totalement tort lorsqu'il parle d'une fabrication, disons, artificielle ou artificialiste d'un sentiment patriotique qui suivrait la défaite de 70 et qui serait donc l'œuvre de la Troisième République. Hein? Le sentiment national, il existe avant. Il existe avant. Il y a une hostilité à la présence prussienne dans les années... En 1870, je veux dire, qui ne doit rien à la Troisième République, puisqu'on est encore sous le Second Empire. Et lui qui connaît l'histoire ouvrière, ces fameux mémoires de Jean-Baptiste Dumay, ouvrier au Creusot, qui a été maire du Creusot à un moment donné, on le cite dans le livre, nous, il a un sentiment national profond, il veut défendre son pays contre la présence d'une armée étrangère. Donc le sentiment national est antérieur à celui qu'a relancé le programme scolaire de la Troisième République.
C'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, à gauche, parce que Gérard Noiriel se positionne à gauche, que la gauche a perdu ce sentiment national. Ils ont oublié Valmy et les révolutionnaires qui criaient « Vive la nation ». Comment expliquez-vous justement ce détachement, alors que vous démontrez dans le livre, bon, vous n'êtes pas les seuls, bien évidemment, mais enfin, là c'est bien parce que c'est un livre assez bref et qui prend les choses...
On n'est pas les seuls, on exhume une tradition qui nous semble majoritaire dans l'historiographie française et qui prend le contre-pied d'historiens comme...
Oui, mais pourtant la gauche semble avoir oublié Jaurès, en tout cas le nationalisme de Jaurès semble avoir oublié les écrits d'Aragon sur Ils étaient 23. Bon. Et puis le patriotisme aussi du Parti communiste, qui, on le voit bien même dans son récit sur l'immigration dans les années 70 ou 80, ne correspond plus du tout à celui qui peut tenir aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ça?
Alors je sais pas, c'est peut-être une énigme. Qu'est-ce qui fait que la gauche aujourd'hui est en grande partie ignorante ou refusante de son propre héritage? J'ai l'impression qu'il y a quand même une chape de plomb idéologique qui s'est abattue ou qui a été construite dans les années 1980 à 90,
avec l'arrivée du FN,
Mitterrand, avec cette imposition d'une grille de lecture de la société raciste et antiraciste. Voilà. C'est le seul cadre global d'appréhension des rapports entre les individus. On est raciste ou on est antiraciste, mais tout ne se réduit pas à ça.
Vous votez Le Pen ?
Ah non, moi je vote pas, moi. J'ai pas de domicile. Non, justement, parce que ça fait 5 ans que mon frère a demandé un 3 pièces, mais comme son fils est mort, on lui a refusé. Et alors du coup, moi j'ai pas de domicile parce que sa femme, elle a un cancer. Et quand à l'hôpital, ils l'ont renvoyé, vu qu'elle était en phase terminale.
Bon, enfin, d'accord, mais si vous votiez, vous voteriez Le Pen ?
Mais tous les Arabes que je connais à Saint-Denis sont dans les 4, 5 ou 6 pièces, hein. Ils ont beaucoup d'enfants, c'est forcé.
Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste.
Ah bah oui, mais moi ce que je comprends, c'est que les 3/4 de la planète, ils sont dans la merde. Alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, eh ben, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur file à bouffer, ça c'est sûr.
Je ne vous fais pas dire.
Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent pour garder le sourire, hein. Parce que sinon, c'est immoral, vous voyez.
Dites-moi, Michou, vous seriez un petit peu communiste.
Vous soulevez quelques contradictions, et elles sont nombreuses à gauche. Lorsqu'il s'agit d'aller reconnaître l'identité d'un pays ou d'un peuple étranger, là c'est exotique et sympa. Lorsqu'il s'agit de reconnaître l'identité française, ça pose un problème. Et il en est de même pour la nation.
Bien sûr, on fait l'éloge de toutes les autres nations, sauf les nôtres. Le front de libération nationale, ou Front national de libération pour le Vietnam, le Front de libération nationale pour l'Algérie, tout ça c'est ultra positif, mais la défense d'une identité française, ça devient négatif. J'ai l'impression, oui, on est dans une fuite en avant de mauvaise conscience, de mésestime de soi, mais qui effectivement sur un plan conceptuel apparaît totalement contradictoire, parce que l'autre dont on admire la culture a aussi sa propre identité. Donc pourquoi admirer quelqu'un qui assume sa propre identité et se refuser soi à admirer ou assumer en tout cas sa propre identité? C'est complètement contradictoire. Mais
le paradoxe est assez aussi flagrant lorsqu'on parle de la lutte contre antilibérale. À un moment donné, vous faites vous effleurez cette problématique-là, parce que à gauche aussi, la question de la République pose aujourd'hui, comme la question de la nation, pose un problème. Et pourtant, les gens vont se battre pour le maintien des services publics, mais lorsqu'on parle de République, ça devient gênant. Là aussi, on a l'impression qu'il y a un vrai paradoxe qu'on a l'impression que c'est insoluble.
Mais moi, je veux dire, franchement, la gauche est en grande maladie de programmes, d'idéologie et de principes. Et c'est pour ça qu'ils ne savent pas comment réagir face à l'offensive de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça qu'ils trépignent. Parce que, en fait, ils utilisent des références qui ont été celles de la gauche, et ils sont maintenant incapables de s'opposer à lui sur une base réellement programmatique. Alors, ils lui font des procès d'intention, par exemple pour ce musée de l'histoire de France ou pour d'autres choses, mais tout simplement parce qu'ils ont abandonné eux-mêmes une partie de leur programme, et que l'essentiel de leur programme, c'est celui de la droite aujourd'hui. Enfin bon, je ne veux pas faire trop de politique, mais il est difficile de faire une différence essentielle entre les programmes de la social-démocratie et celle de la droite.
Il faut dénationaliser l'histoire de France, c'est-à-dire d'abord, il faut arrêter avec le mythe des Gaulois. Les Français ne sont pas les héritiers.
Dire qu'aujourd'hui, il y a un air de famille entre ce qu'on vit dans les banlieues et la situation coloniale qu'ont vécu les grands-parents, peut-être souvent des jeunes gens qui y vivent, ça a quelque chose de parfaitement évident.
Il faut faire exploser cette identité.
Franco-centré. C'est magnifique. Allahu Akbar,
cousin. On regarde bien, on est où? On est à Jérusalem.
Parce que là, c'est
dans la moitié des tirs. On se croirait à Jérusalem.
Il y a eu deux petits qui sont morts. Deux petits frères à nous. Deux petits. Là, deux petits et une mosquée. Franchement, je vous dire une chose, c'est que là, c'est trop.
Vous citiez tout à l'heure Ouria Boutelja. On a vu en effet ces dernières années émerger dans le débat public et au sein de la société des associations, alors plus ou moins modérées, aux revendications mémorielles, aux revendications ethnico-religieuses, et certains en appelant même, et c'est le cas d'Ouria Boutelja, elle en appelait à dénationaliser l'histoire de France.
Elle dit que elle ne revendique pas d'être française, qu'elle revendique d'être l'égale des autres, tout en pouvant, dit-elle, rester algérienne. Pourquoi il y aurait une positivité algérienne et non pas française? Donc c'est un choix qu'elle fait, il lui appartient. Ouais.
Elle le dit parce qu'elle pense que la France doit s'adapter à la culture de ces nouveaux immigrés. C'est ce que pense aussi Suzanne Citron, par exemple. Hein.
Mais ça c'est le grand problème qu'a soulevé... C'est le problème du rapport entre la diversité et l'homogénéité qu'a soulevé Lévi-Strauss il y a très longtemps maintenant, et qu'on fait semblant d'ignorer ou à qui on prête des intentions racistes, enfin, au terme d'une réflexion vraiment débilitante. Pourquoi un pays devrait-il adopter, en diminuant la sienne, la culture des autres? Par quel raisonnement légitime on peut aboutir à défendre une telle thèse? Si la culture de l'autre, elle a une valeur, c'est justement parce qu'elle existe en tant qu'elle est différente de la sienne. Donc si on veut que toutes les cultures se ressemblent, il n'y a plus aucune différence, et on va tomber dans un appauvrissement effarant du patrimoine culturel mondial, jusqu'à n'avoir plus qu'une espèce de sous-langue, là, de globaliche, avec 2000 mots qui nous permettront de faire de la communication, mais plus du tout d'avoir des rapports, d'être civilisés. Mais moi, je pense que Ouria Boutelja, elle a rompu avec la tradition, avec l'héritage de la lutte des immigrés en France, qui dans les années 70, par exemple, et encore 80, etc., se battait pour l'égalité en France, et non pas contre la France. Elle, maintenant, elle est contre la France. C'est son droit aussi. On peut en France être contre la France. Mais qu'on ne vienne pas nous demander à tous d'approuver ce genre de suicide culturel. Elle dit que la naissance est un hasard. Bon, et d'accord, effectivement, on est tous nés par hasard dans le pays qui nous a vu naître. Mais la vie, ce n'est pas seulement la naissance. La vie, c'est après tout ce qui fait qu'on grandit, qu'on a une famille, qu'on entend telle langue, qu'on va à l'école, qu'on a tel héritage culturel. Donc le problème, c'est pas seulement la naissance, mais c'est la formation de notre individualité, notre identité individuelle, ou de notre individuation, comme disait le sociologue, au fur et à mesure de notre vie. Et ça, pendant les 10, 15 ans, 20 ans qui font qu'on acquiert cette culture, on n'a pas seulement un statut juridique, on est un individu qui se confronte, qui grandit et qui pense avec une culture.
Mais alors, son discours recoupe le discours d'un certain nombre d'associations ethnico-religieuses, et je pense particulièrement à la question de l'islam que vous traitez à la fin du livre. L'islam, comme d'ailleurs des associations communautaires juives, voudrait que la République s'adapte à leur manière de vivre, à leur façon de voir, et on le voit bien, de plus en plus, il y a des poussées, aidées parfois d'ailleurs par l'Europe, pour qu'on cède, par exemple, sur les questions de la laïcité.
Oui, et ce qui est quand même une manière pour le loup un peu de se débusquer en sortant du bois, parce qu'il y a quelques années, lorsque le rapport des forces leur semblait moins favorable, ils faisaient au contraire assaut de profession de foi, de laïcité, de républicanisme. Les associations qui ont voté la charte initiale qui créait le Conseil français du culte musulman disait bien approuver le cadre français de la République et de la laïcité. Bon, et à commencer par l'UIF, on était un certain nombre à avoir révélé cette hypocrisie conceptuelle d'une association comme l'UIF qui est adhérente au parti politico-religieux des frères musulmans, qui lui, évidemment, renie totalement la laïcité. Donc on ne voit pas comment on pouvait être à la fois frère musulman et adopter sans reniement ou sans hypocrisie la laïcité. Alors aujourd'hui, on veut faire accepter des entorses à la laïcité, mais attention, dans le chapitre, nous, on n'a pas traité de tout l'islam, hein, des sentiments profonds qui sont ceux de la masse, je crois, des croyants musulmans en France qui sont pour l'essentiel quand même sécularisés et qui acceptent le cadre républicain, laïque, etc. de la société française. On a traité de manifestations militantes de l'islam.
Jusqu'à Tariq Ramadan.
Jusqu'à Tariq Ramadan, évidemment. un maître de duplicité rhétorique, ça c'est évident.
Le Parti communiste, lui, n'a plus été au pouvoir depuis le départ de François Mitterrand, donc par conséquent, il est un peu ignoré maintenant, mais il a perdu sa fonction tribunicienne, celle qui, en quelque sorte, lui permettait d'interpréter le mal-être des catégories sociales les plus défavorisées. Et c'est dans ce rôle-là, personnellement, que je me suis substitué à lui.
Nous posons les problèmes de l'immigration. Ce serait pour utiliser et favoriser le racisme. Nous rechercherions à flatter les plus bas instincts. Comme l'autre jour, un dirigeant socialiste, il crie tous en chœur « Pétainisme ». Quelle honte ! Quelle honte ! Quelle idée lamentable se font ces gens-là, des travailleurs ! Bornés, incultes, racistes, alcooliques, brutaux, voilà d'après nos détracteurs qui vont de la droite au Parti Socialiste, comment seraient les ouvriers et les ouvrières ?
Alors, j'ai parlé de l'Europe tout à l'heure, et vous avez parlé d'Henri Martin. Nous, c'est le cas ici, par exemple, dans notre région, ici, Midi-Pyrénées, en Occitanie. On voit de plus en plus de revendications régionalistes. Là encore, c'était des revendications qui étaient le plus souvent portées par la droite, on va dire, entre guillemets, réactionnaire, et qui ont été reprises dans les années 70 comme un retournement, comme ça, sémantique, par la gauche radicale ou écolo, qui demande à ce que l'identité occitane soit plus présente et qui demande notamment à la France à ce qu'elle signe et ratifie la charte européenne des langues. Qu'il y a vraiment une alliance entre une politique volontariste de l'Europe de voir les nations se dissoudre avec le concours des régionalistes.
Oui, il y a une part de réalité derrière tout ça. Il y a toute une série de projets européens, enfin issus de la Commission européenne, qui voient les choses comme ça, qui voient ce qu'on appelle la lenderisation de l'Europe, c'est-à-dire ces grandes masses régionales qui n'auraient plus affaire à un cadre national. Mais je crois que si on fait le bilan historique de la confrontation entre ces identités régionales ou grandes régionales pour l'Occitanie et la nation, c'est vrai que certaines cultures ont perdu un peu, mais comme le font remarquer des historiens comme Agulon ou Leroy Ladurie, elles ont gagné aussi, les habitants de ces régions ont gagné aussi à accepter le cadre national, l'administration française, l'égalité, l'accès aux concours, l'accès aux services publics, etc. Donc il y a un bilan qui doit être fait sans vision caricaturale, sans penser que l'État a mené une guerre d'éradication absolue de tout vestige culturel régional.
Pour eux, c'est particulièrement la République qui a écrasé la langue.
Mais là, la République n'a pas écrasé la langue. Je suis pas spécialiste de ces questions, mais les rapports de locuteurs dans ces régions entre ceux qui maniaient la langue française et puis ceux qui n'étaient que des locuteurs de occitan ou autre, il faudrait regarder ça de près, mais il n'y a pas d'éradication, et d'ailleurs le gros des élus, des personnels du Parti radical, qui est le grand parti républicain de la fin, surtout des débuts du XXe siècle, marie aisément la référence à leur identité régionale, le maintien de traditions et l'usage d'une langue régionale, et l'adhésion, évidemment, à la République. Quand Ariel, je peux rebondir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure. On le reproche fait aux historiens d'avoir joué un rôle trop grand dans la construction du sentiment, dans la vision historique du sentiment national. Mais c'est bien le rôle des historiens. C'est bien le rôle des historiens que de lire une réalité dans sa chronologie, dans le temps. L'histoire n'a pour objet que le temps. Donc, effectivement, les historiens insistent sur la densité chronologique de l'héritage qui est le nôtre. Mais il y a peut-être maintenant une espèce de guerre de discipline entre l'histoire et puis les sciences sociales. D'ailleurs, c'est un vieux débat qui date du début du siècle entre la sociologie naissante, Durkheim, etc., et l'histoire. Il y a une volonté, disons, impérialiste, entre guillemets, des sciences sociales de délivrer un discours de soupçon sur toute réalité sociale. Voilà, une espèce de, peut-être, d'outrance critique à l'égard de toute réalité sociale, de la supposer, de la soupçonner à chaque fois de velléité hégémonique, négatrice de l'autre, etc. Je crois que c'est en partie exagéré.
Dans le futur, qu'en sera-t-il de la nation? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes pessimiste? On est en train de construire l'Europe en plus.
Bon, à chaque fois que les historiens font de la prospective, ils se trompent. Alors, je resterai sur la prudence et la facilité d'avoir à étudier ce qui s'est déjà passé plus qu'à faire des pronostics. Mais
on voit quand même des mouvements en Europe aujourd'hui, hein, autour des nations, en Espagne, en Belgique aujourd'hui.
Mais la réalité culturelle profonde des populations européennes, ce sont des réalités nationales. Enfin, qu'est-ce qu'on a vécu dans l'ex-Yougoslavie? Qu'est-ce qu'on a vécu dans l'ex-URSS? Sinon, l'accession à la liberté nationale de populations qui vivaient dans des cadres plus grands. Alors, on peut le déplorer ou pas, mais enfin, c'est globalement quand même, c'est plutôt quelque chose qui a procuré aux individus des facteurs d'émancipation que l'inverse. Donc, c'est plutôt positif. Moi, je pense qu'il y a une base de résistance des cultures nationales à partir du moment où les langues déjà sont maintenues. D'où l'importance du combat scolaire pour l'enseignement de la langue française, de la littérature française et le refus de toutes les outrances pédagogiques qui ont désarmé en grande partie les enfants des classes populaires ces dernières années par le refus de la transmission d'une culture, de la transmission
d'un héritage. Ce dont on parlait au début de cet entretien. Merci. Voilà.
Vous savez, moi, mon grand-père a fait la guerre de 14-18, mon père a fait la guerre de 39-45, donc je sais ce que le mot nation et république veut dire.
C'est quoi être français? On se la pose éternellement, j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais y répondre. Je crois qu'il faut cesser, parce que être français, c'est avoir la carte nationale, c'est avoir la carte d'identité française. Je veux dire, au-delà de ça...
Mais être français, c'est quoi? La question ici peut renvoyer à une coexistence parfois mal vécue entre les communautés.
À l'heure actuelle, aujourd'hui... Il faudrait presque se cacher derrière autre chose que derrière le drapeau français. Je pense que c'est pas logique. Se cacher de qui? De la façon dont on peut être vu en France. On est mal vu, suffit qu'on impose le drapeau français, on devient extrême droite, tout simplement.
Les privilèges du reste de la société, et moi j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale.
Voilà, cet entretien s'achève. Merci beaucoup à Michel Renard. Je vous rappelle le titre de ce livre, Faut-il avoir honte de l'identité nationale? Il est paru aux éditions Larousse dans la collection À dire vrai.